prêt pour un nouvel épisode? Alors, juste avant, je vous invite à aller faire un tour sur devenirtriathlète.com/commande. Vous pourrez retrouver notre livre sous la direction d'Olivier. À 7 mains, on s'est mis autour d'une table pour vous proposer le meilleur pour savoir comment devenir triathlète, comment progresser en triathlon et enfin comment performer en triathlon. Je vous donne rendez-vous à la fin de cet épisode pour quelques derniers conseils. Allez, c'est parti pour devenir triathlète. Salut les sportifs, c'est Hermano et vous êtes dans un nouvel épisode du podcast Devenir Triathlète. À mes côtés pour co-animer cet épisode, et bien comme d'habitude, Olivier De Scooter, le fondateur de la marque Oana. Salut Olivier.
Salut Hermano.
Et notre invité pour cette semaine, un autre triathlète professionnel, à savoir Arthur Orso. Salut Arthur.
Salut Hermano, salut Olivier.
Arthur, c'est un plaisir de te recevoir, surtout que je t'ai mené la vie dure. On a décalé quelques fois l'enregistrement de ce podcast, donc merci encore pour ta disponibilité et pour avoir trouvé un petit peu de temps dans ton agenda de triathlète professionnel. C'est un des sujets sur lequel on reviendra justement sur comment est-ce que tu arrives à jongler entre vie perso et vie pro. Mais déjà, la tradition de ce podcast, c'est pour le premier épisode de la semaine de donner la parole à notre invité. Donc Arthur, dis-nous tout. Qui es-tu? Quel âge as-tu? Que fais-tu dans la vie? On imagine que tu swim, bike et run, mais on veut tout savoir.
Eh bien alors moi, c'est Arthur Orso, j'ai 28 ans, j'ai du mal à m'y faire, tiens.
T'as du mal à t'y faire au 28e?
Ouais, je sais pas pourquoi, j'ai tout le temps tendance à dire que j'ai 27, alors que ça fait déjà quelques mois que j'ai eu les 28, mais c'est pas, le chiffre peut pas rentrer, quoi. Ça doit être parce que je me rapproche trop dangereusement des 30. Mais je fais pas de fixette là-dessus, en vrai. Mais... du coup, j'ai 28 ans, mais j'habite à Montpellier. Je suis originaire de Royan, là, sur la Charente-Maritime. Et en fait, je suis parti à Montpellier quand j'avais 19 ans pour mes études. Hein. J'ai fait le parcours, disons, de sportif assez classique qui veut faire des études supérieures. J'ai fait ma licence STAPS, puis je suis parti un an faire un master sur plus ou moins de la recherche, en fait. Et après, j'ai décidé d'arrêter là parce que j'ai vu que ce serait vraiment trop compliqué de vouloir vraiment concilier sport de haut niveau et études. En tout cas pour moi, à ce moment de ma vie, ça a été un choix que j'ai fait. Et voilà, donc maintenant ça fait environ 3 ans que je me consacre pleinement au triathlon, on va dire professionnel. C'est un choix qui s'est avéré payant là, assez récemment, après ma victoire à Aix, et donc vraiment satisfait de tout ça. Voilà.
Bon alors, t'as été un peu vite. Tu parles déjà de la victoire, alors qu'on voulait revenir un petit peu sur toi, avec toi, sur ta vie de triathlète. Alors, déjà peut-être pour planter le décor, tu nous dis que t'as arrêté tes études après avoir commencé en master. Déjà, dans quelle spécialité tu étais? Et puis, est-ce que tu as l'occasion d'exercer dans le domaine dans lequel tu as étudié?
Oui, alors en fait, ouais, oui, c'est vrai que j'ai été un peu vite. J'ai fait un master en entraînement sportif, du coup au STAPS de Montpellier, qui m'a donné le diplôme de préparateur physique et d'entraîneur en triathlon. Parce okay. qu'on est à Montpellier, il y a la spécialité triathlon, c'est la seule fac de France qui propose ça. Oui, je m'en suis servi, parce que par le passé, j'ai bossé avec mon ancien coach qui avait monté la plateforme Goutaille. J'ai bossé pour lui, j'avais jusqu'à une vingtaine d'athlètes à gérer par semaine via la plateforme. Et maintenant, aujourd'hui, j'ai juste gardé une athlète que j'entraîne à vélo parce que je voulais vraiment me consacrer pleinement au triathlon et essayer de m'éparpiller le moins possible. Mais c'est quelque chose que je garde dans un coin de ma tête pour l'après-carrière, ça c'est sûr. Parce que j'ai pas non plus pris le temps de, tu sais, chercher à développer vraiment cette activité. On voit pas mal de monde qui le fait et il y a de la demande, ça c'est certain. Enfin, je reçois encore quelques messages pour me demander si j'entraîne ou si je connais du monde. J'ai mon colocataire Bertrand Billard là, qui vient de prendre sa retraite et qui se lance pleinement là-dedans. Donc je vais avoir un bel aperçu de ce que ça peut donner, quoi.
Et du coup, on a quand même une question. Est-ce que tu te coaches toi-même ou est-ce que tu as un autre coach?
Alors non, je me coache pas moi-même. C'est un choix que j'ai fait. En fait, à Montpellier, il y a un petit groupe d'entraînement qui est surtout orienté vraiment court distance avec pas mal d'athlètes de D1. Donc c'est le Altri Squad. Dedans, on y retrouve des gars qui font des bons résultats en D1. Il y a Jérémy Quindos qui est au club de Poissy, Quentin Barraud au club des Sables. C'est des gars qui font top 15, top 20 en D1 régulièrement. Donc c'est quand même des... par rapport à ce que je peux préparer moi, des petites fusées quand même. L'avantage que j'ai, c'est que dans l'eau, je suis pas ménagé. Même si c'est pas vraiment mon point fort, au moins, je sais qu'à l'entraînement, eux, ils ont leurs objectifs de cours à préparer, donc ça avance bien. Et en fait, c'est top d'avoir un groupe, enfin, vraiment d'avoir un groupe d'entraînement où les gars sont dédiés à ça. C'est que bah, tous les jours, il y a un rendez-vous le matin à 7h, 7h30 dans l'eau. Fin de matinée sur le vélo, fin d'après-midi en course à pied, en tout cas sur les journées où tout le monde triple, où ça s'entraîne assez dur. En fait, il y a une routine vraiment avec ce groupe, c'est mardi, jeudi, samedi. Il y a les 2-3 entraînements avec les séances d'intensité spécifiques, donc même si moi je fais pas la même chose, forcément parce que je prépare du long. D'avoir le groupe en tout cas pour partir, ça facilite la vie vraiment quoi.
C'est génial et surtout ça te permet de, enfin tu sais que c'est là quoi, c'est là, c'est dans l'agenda ouais. Et tu le fais sauter beaucoup plus difficilement
ouais,
quoi.
Ouais, c'est ça.
Alors que c'est vrai que quand t'as tes séances tout seul, tu te dis bon bah en fait que je parte maintenant dans 1 heure ou dans 3 heures, à la limite ça revient au même et puis au final il est 23 heures, tu te dis ah bah merde j'ai pas fait ma séance quoi.
Ouais c'est vrai que ça peut être ça. Bon on a tous tendance un petit peu à procrastiner quand c'est comme ça. Ou alors à regarder la météo, putain non ils annoncent une averse dans 30 minutes, bon je suis parti au rendez-vous d'après-midi, c'est pas grave. Que là bon il y a le rendez-vous, tout le monde se motive, c'est sûr que ça crée une belle émulation en tout cas.
Après la différence c'est que nous on est des sportifs amateurs, toi c'est ton métier, donc je pense que ça motive aussi un peu plus à sortir, non?
Ouais mais non c'est sûr. Bah de manière générale, si c'est écrit sur la planif, il n'y a pas d'entorse quoi, faut la faire, donc on trouve une solution, mais c'est sûr que d'avoir le groupe, le coach, la planif, bon en fait moi j'ai essayé de tout concilier pour rendre mon quotidien le plus facile possible entre guillemets quoi.
Et ça représente combien de, allez sur ta semaine, c'est quoi le pourcentage on va dire d'entraînement que tu fais seul versus en groupe?
Alors sur ma semaine, mais déjà il y a zéro entraînement seul en natation, donc moi en général je nage 5 fois, enfin du lundi au vendredi, environ 1h30 par séance. Donc là, il y a toujours du monde, il y a le coach, le groupe. Sur la partie vélo, je pense que c'est du 50-50 entre ce que je fais avec le groupe et ce que je fais tout seul. Ou alors, Montpellier, c'est vraiment un bon spot, je pense, en France pour ça. C'est qu'il y a pas mal d'athlètes aussi isolés. Je vois, j'ai Pierre Lecor qui habite, je sais pas, 200 mètres de chez moi. Et lui qui est entraîné par Brett Sutton, donc c'est pareil qu'à sa planif vraiment à lui, où c'est vraiment très, très spécifique et pas mal différent de ce que d'autres athlètes peuvent faire. Mais on arrive à se retrouver quand même pas mal. Donc au final, ouais, moitié du temps seul à vélo, moitié du temps accompagné, donc c'est sûr que ça facilite beaucoup, beaucoup les choses. Et en course à pied, à part sur les séances vraiment très spécifiques où je vais devoir manquiller 30 bornes parce que je veux préparer un Ironman, où là je suis sûr de ne pas avoir beaucoup de copains. Mais sinon, non, il y a toujours un peu de monde. De toute façon, de manière globale, moi, dans le groupe où je suis, il y a une planif commune pour tous les athlètes. Et après, c'est en fonction des objectifs de chacun que ça diverge, quoi. Allez, grosso modo, je vais dire, ça va être 60% du temps en groupe et 40% tout seul, de manière globale, répartie sur l'année, en tout cas.
Bon, en tout cas, ça a l'air d'être un beau spot pour ça, Montpellier, comme tu dis. Bon, déjà, il est connu en dehors du Krebs de Boulouris aussi, qui est pas mal connu en France. Mais c'est vrai que quand ça te permet de faire 50 à 60%, voire même un peu plus, si on rentre le pourcentage dans l'eau, dans tes entraînements accompagnés, en termes de motivation et d'émulation, ça doit être top quand même.
C'est essayer de tirer le meilleur possible du groupe pour ça, en fait, pour cet aspect motivationnel, parce que quand les journées dures commencent à s'enchaîner et que la fatigue s'installe vraiment, bon, c'est là que ça compte le plus, en fait. Tout le monde sait s'entraîner à la sortie de la coupure avec plein de jus et plein d'envie parce que ouais, la saison elle arrive, mais 2-3 mois après, quand les semaines commencent à s'accumuler, que le temps est maussade et qu'il fait froid, même si je pense qu'on n'est pas les plus à plaindre à Montpellier, bah là c'est sûr que d'avoir le groupe, en fait, c'est vraiment la différence que ça fait. Bon, j'avais refait une année tout seul à Royan, je sais plus, il y a 2-3 ans. Et là, pour le coup, j'étais vraiment tout seul, parce que des collègues pour s'entraîner avec moi là-bas, il n'y en avait pas vraiment, à part le week-end, les gens qui travaillaient, quoi. Là, j'ai vu ce que c'était que de devoir se motiver vraiment à y aller toute l'année, quoi.
Pour revenir justement sur toi et sur ton historique, on imagine que t'es pas arrivé comme ça du jour au lendemain à Montpellier. Tu nous as dit que t'étais descendu à Montpellier pour tes études. Mais déjà, la première question qu'on se pose très certainement toutes et tous, c'est comment est-ce que t'as découvert le sport et plus spécifiquement le triathlon?
En fait, j'ai toujours fait du sport depuis tout petit. Hein. J'ai un petit peu tout essayé. Il y avait rien qui me convenait. Je sais plus combien j'ai eu de licences dans des fédérations différentes, mais je crois que c'était 6 ou 7. On avait fait le compte avant que je me mette à l'âge de 12 ans au VTT. En fait, je faisais du BMX plus jeune, du canoë kayak en même temps. Et en fait, je me suis pris une belle, très belle gamelle à 12 ans en BMX où je me suis fracturé toute la partie inférieure de la face. Enfin, un beau chantier, les dents par terre ou pas retrouvées d'ailleurs. Les mandibules cassées, mâchoire cassée, trauma crânien, enfin, j'ai fait un petit séjour à l'hôpital derrière ça. Et du coup, là, ça a enterré ma vie de casse-cou. Et je me suis mis à un sport un petit peu moins risqué, on va dire. Je me suis mis au VTT juste après ça. Non, au VTT cross-country, mais ça me paraissait beaucoup moins. Parce que moi, je faisais de la rampe, en fait. Donc, sur la rampe, j'essayais de faire des figures. Enfin, je dis bien j'essayais, hein, parce que ça s'est pas bien terminé. Mais...
Ah, ça a dû être un beau soleil. Il y a personne qui t'a filmé, justement.
Non, heureusement. Ouais, c'était ça. C'était un transfert de rampe, en fait, où... Je me souviens, je suis passé d'une rampe arrondie à une rampe plate et il y avait, je sais pas, genre 2-3 mètres entre les deux à passer. Enfin, c'était pas non plus foufou, mais quand on a 12 ans et qu'on fait 1m50, ça paraît haut. Enfin, dans mon souvenir en tout cas. Et là, j'avais dû éviter quelqu'un au dernier moment. Du coup, j'ai pris la rampe de travers et j'avais rien pour me réceptionner. Et donc, je suis tombé comme j'ai pu, quoi. Mais pas de bol, ça a été le menton qui a touché le bitume en premier. Et du coup, ouais, j'ai eu un bon 6 mois de convalescence après ça, avant de même pouvoir reparler, je crois. Et je sais pas, il y avait une rando VTT organisée dans le village d'à côté de chez moi. Et j'en parle rapidement avec mon père et on se dit qu'on va la faire, quoi.
Attends, et ton père, à ce moment-là, il te dit pas « Non, mais toi, tu vas aller jouer au golf, quoi.
» Non, même pas, c'est vrai. C'est vrai qu'il m'a plutôt même encouragé à le faire parce qu'en fait, il était de ce coin-là, il a grandi vers là-bas et il me disait « Attends, je crois qu'il y a une forêt, il y a des petits single tracks, c'est super, bon, on l'a fait ensemble. » À la base, je voulais le faire tout seul, ce truc, je voulais le faire avec mon cousin, même tout seul, mais bon, il m'accompagne. On le fait tous les deux et je me souviens, c'était un départ assez tôt, un dimanche matin, là. Et comme toutes les rondes au VTT, souvent, ouais. Et on se fait 30 bornes, moi j'avais plus de conditions physiques, j'étais pas monté sur un vélo depuis 6 mois, et puis c'était du BMX, c'était pas non plus ça. 30 bornes dans les marais avec du vent, limite froid en plein été, enfin je me souviens, j'ai un souvenir du début vraiment horrible. Et là j'étais prêt à rentrer parce que j'en pouvais plus. Et le parcours change soudainement pour aller justement dans la partie technique, les petits single track. Et bon, on se regarde avec mon père, on se dit que il avait un vague souvenir que par la forêt c'était plus rapide pour rentrer, donc moi je le suis, quoi, alors que c'était même pas le cas, hein. Mais au final je me retrouve à faire ça en plus, et en fait c'est là que je tombe amoureux du truc, c'est que c'était comme on a tous pu faire un VTT dans les tout petits single track, des passages rapides un peu techniques, en fait je tombe vraiment amoureux du VTT à ce moment là quoi, et je me suis rajouté je sais plus 20 bornes de plus de VTT finalement pour finir la journée à 50 bornes. À 12 ans, j'étais rentré complètement rincé, j'avais dormi tout le dimanche après. Et puis au final, deux semaines après, on prenait la licence dans le club. Et puis j'ai fait quoi, 4-5 ans comme ça, à faire que du VTT. Et un beau jour, un des jeunes du club dans lequel j'étais me parle d'un raid aventure, je ne sais plus, qui était organisé vers Bordeaux. Il fallait faire du canoë-kayak, de la course à pied et du VTT. Donc là, je me souviens, j'étais en seconde à cette époque, donc je me suis mis à courir, enfin juste comme ça, pour préparer le truc, puisque j'avais déjà fait du canoë-kayak, je faisais ça en même temps que je faisais le BMX, mais j'avais du coup tout arrêté. Et du coup, je me mets à me préparer, je me souviens, je cherche des plans d'entraînement sur Internet, parce que je voulais me préparer correctement, je tombe sur un site qui proposait de mettre un plan d'entraînement couplé avec de la musique, je sais plus comment ça s'appelait, mais je me souviens d'avoir vu ça dans mes lecteurs MP3, où... Oui, parce qu'à l'époque, c'était des lecteurs MP3.
À l'époque des iPods.
Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça au tout début. Et donc, je suivais ma planif. Là, j'y allais 3-4 fois par semaine, comme un débile, à courir sur le goudron, alors que j'avais fait que les sports portés jusque-là. Donc, j'ai eu le droit à pas mal de périostites, d'ailleurs, conjointement à cette époque. Et donc, je prépare quand même cette épreuve. Et en fait, j'avais carrément adoré d'enchaîner canoë-kayak, course à pied, VTT... Bon, il se trouve qu'on remporte l'épreuve, en fait, et du coup, je pense que ça a pas mal participé au reste. Et donc je prends un plaisir fou à faire ça, et 2 mois après, il y avait le triathlon de Royan qui était organisé. Je prends mon petit dossard, je fais ça avec mon VTT et des pneus slick qu'on avait trouvé, je sais même plus où. Et voilà, enfin, c'était parti, tout simplement, quoi. Je fais mon premier triathlon, et l'année d'après, ça tombait pour ma première. Je décide de changer de lycée complètement et d'aller rejoindre le lycée de Parthenay. Alors Parthenay, c'est à côté de Poitiers.
Des bons souvenirs, moi j'ai fait les championnats de France junior là-bas. C'est super sympa.
Ouais, super sympa, mais en fait, c'est un petit peu moins maintenant, mais à l'époque, ils avaient un club, c'était vraiment le gros club de la région en fait où j'étais, et même c'était un gros club en France. Ils avaient une équipe féminine en D1 et masculine en D1 aussi. Et c'était un des seuls clubs avec Poissy... En tout cas, faire ça, c'est l'époque de souvenirs, quoi. Et ça marchait vraiment bien. Et je sais pas, sur un des triathlons, en effet, moi je me retrouve à aller faire le triathlon de Parthenay là-bas. Je rencontre le président qui était Jackie Baudron à l'époque et qui, dans un de ses longs discours dont il a le secret, me motive à venir faire ma première et ma terminale là-bas en fait. Et du coup, je me retrouve à la sélection sportive à faire du triathlon sans idée d'y être très compétitif, en tout cas à cette époque. Mais bon, j'avais toujours ce petit truc en moi de vouloir donner le meilleur moi-même sur les épreuves. Donc ça a été un beau chantier étant donné que je savais pas nager. Donc je me retrouve là-bas quand même avec pas mal de jeunes qui venaient tous de la natation. Je me souviens, je fais mes premiers championnats de France en cadet là-bas. Enfin, c'était pas là-bas, c'était à Pierrelatte. Et je me retrouve à sortir dans les 5 derniers de l'eau. Je monte sur le vélo était crevé. Enfin, des petits calvaires comme ça, j'en avais vécu quelques-uns. Mais bon, ça reste des bons souvenirs.
Et c'est ça qui t'a mis le pied à l'étrier du triathlon. Et depuis, le virus ne te lâche plus.
Ouais, c'est ça, exactement.
Donc là, ça fait quoi? Ça fait à peu près 10 ans que tu t'es mis au tri?
Ouais, c'est ça. Ça fait 12 ans, je crois même. Exactement.
Ok. Et ça te... tu continues à faire un peu de VTT sur le côté ou pas du tout?
Alors, j'ai plus de VTT perso. Celui que j'avais, là, malheureusement, je me suis fait cambrioler et on me l'a volé. Donc depuis, j'en ai pas.
Et ça te manque pas, ce côté technique?
Si, complètement. En fait, dès que je rentre à Royan, j'ai un VTT ou quoi d'un pote à moi qui traîne quelque part et que je peux emprunter. Donc, si, dès que j'ai l'occasion d'en faire, en tout cas, j'en fais. Là, j'en ai plus à moi, donc c'est sûr que ça devient plus compliqué. Mais même sur les périodes de coupure, souvent, il y avait un magasin qui m'aidait à Montpellier à une époque. Le gars me prêtait toujours son VTT pour la coupure. Donc, pendant les 3 semaines, moi, je m'arrêtais pas vraiment. J'allais faire que du VTT, mais je prenais un plaisir fou à découvrir tous les sentiers du coin.
Je peux comprendre tout à fait. Enfin, j'ai aussi commencé par le VTT. Et c'est vrai que c'est un truc qui, moi, me manque aussi beaucoup. Là, j'ai plus de VTT non plus, mais ça me manque énormément. Et le côté un peu technique, justement, c'est un truc... Tu retrouves pas ça dans le triathlon, à moins que tu sois sur le parcours Xterra, tu vois. Mais c'est vrai qu'effectivement, je comprends tout à fait, ouais.
Je voulais revenir avec toi. On a passé un peu en long, en large, pas en travers. Hein. Je pense qu'il y avait encore pas mal de choses à dire, mais on est revenu un petit peu sur ton passé, sur ton histoire de triathlète naissant. Et justement, tu nous disais que ton histoire avec le triathlon a commencé quand tu avais une quinzaine d'années, véritablement quand tu étais en première, quand tu as déménagé pour aller vers Parthenay et le sport études triathlon, mais tu nous as aussi avoué que c'est un peu à ce moment-là que tu as commencé à apprendre à nager. Alors comment ça se passe pour un gamin de 15-16 ans qui va se mettre à apprendre à nager, qui va se jeter dans le grand bain avec, tu nous l'as dit, hein, d'anciens nageurs ou même des jeunes qui étaient déjà triathlètes, et comment est-ce qu'on apprend à évoluer dans ce milieu?
Comme tous les enfants, tu sais, je savais nager, j'habitais sur la côte, je pensais que j'avais fait un beau crawl, tout ça, quoi. Alors, en fait, il s'avère que je ne savais pas nager, je savais ne pas me noyer, c'était vraiment la distinction, quoi.
Ce qui est pas pareil.
Et au final, je me souviens, pour préparer mon premier triathlon, du coup, prendre mon entrée à la piscine municipale de Royan et sauter dans l'eau, à me dire, bah, vas-y, fais quelques longueurs et ça va bien se passer. Et au final, arrivé au bout du 25 mètres, mais je me souviens, j'étais complètement essoufflé, enfin au bout de ma vie, hein, très littéralement au bout de ma vie, complètement essoufflé, à devoir presque sortir de la piscine, à me dire mais qu'est-ce que je fais. Et je devais préparer un super sprint, donc je crois que c'était 300 mètres de natation. Et j'ai mis un mois pour réussir à boucler les 300 mètres à l'entraînement, en continu en fait, de manière... parce que j'ai fait ça tout seul, sans prendre de cours, sans rien du tout. Et du coup, bah, voilà, je fais mon super sprint avec un mélange de brasse, de crawl et de peut-être 2-3 autres nages non identifiés.
Et de nage petit chien, comme on dit.
Voilà, ça devait ressembler vraiment à ça, quoi. Et du coup, j'arrive à Parthenay, bah, du coup, pour la rentrée qui suit. Et en nageant à peu près n'importe comment, j'allais dire correctement, mais non, à peu près n'importe comment. Et donc, la chance que j'ai eue, c'est qu'il y avait deux coachs dédiés quand même, en fait, dans cette section sportive. On avait 3 créneaux de natation par semaine, bon, ce qui n'est pas non plus énorme, mais pour débuter, en tout cas, c'était déjà pas si mal. Grossièrement, un jour sur deux.
Ouais, parce que je t'imagine mal débuter et avoir 6 séances par semaine. Je pense qu'au bout de la deuxième semaine, tu plies tes valises et tu rentres à Royan, non?
Ouais, c'est vrai, ouais. Ça aurait pu ressembler à ça, c'est vrai.
Et en fait, le truc de cette section sportive, c'est qu'il y avait quand même quelques débutants aussi, comme moi en natation en tout cas. Et à côté de ça, il y avait pas mal de skatés confirmés. Je me souviens que les minimes de cette époque, ils étaient champions de France par équipe sur les trois championnats en aquathlon, en duathlon et en tri.
Ça met un peu la pression quand même, non?
Et ouais, c'est ça. Ouais, moi, ils étaient encore au collège. Je me souviens, moi, j'étais au lycée. Enfin,
t'as des gamins qui te regardent déjà avec deux têtes de plus et puis ils disent alors, toi, tu sais pas nager?
C'est ça, exactement. À cette époque, ouais, voilà, à cette époque, ça fait une différence. Il y a vraiment une différence lycée-collège. Et j'étais incapable de prendre le moindre départ, mais même limite sur leurs éduques, départ minute au 50, j'étais pas capable de faire ça, quoi. Et bon, j'ai pris le temps en fait, hein, j'ai pris le temps. Il y a eu un bon accompagnement là. J'avais notamment, je me souviens, Yoann Bichon, et c'était Boris Nesmois qui était encore athlète à cette époque, qui avait fait pas mal de résultats sur court distance. Et ils ont été patients avec moi. Et bon, petit à petit en fait, on a mis les choses en place pour déjà réussir à garder la tête dans l'eau pour respirer par exemple. Des trucs bêtes, hein, mais bon, tout le monde a débuté. Et puis ouais, moi je voulais rien lâcher, vraiment rien lâcher, donc je sais pas trop combien de temps ça a pris, mais grossièrement, au bout d'un an, je me souviens, j'ai un souvenir de séance où j'arrive au 100 mètres, je touche et le coach me dit 1:30 et je...
Et là tu jubiles.
Ouais, voilà, je jubile un petit peu, quoi. Parce que c'est la première fois qu'il y avait 1:30 au 100 sur une série, en gros, quoi.
Ce qui est pas mal, c'est que ce podcast s'appelle Devenir triathlète, et du coup, tu donnes plein de tuyaux, pas forcément aux jeunes, mais de manière générale à ceux qui nous écoutent et qui se poseraient encore la question comment devenir triathlète. En gros, tu leur dis déjà ne pas lâcher. Et puis, je pense que le premier objectif, c'est d'apprendre à nager correctement. Et la deuxième, ça va être ne pas lâcher, justement.
Ouais, c'est ça, complètement. Complètement. Dans tous les cas, c'est souvent l'embêtement de pas mal de triathlètes qui veulent, pour le coup, comme tu dis, devenir triathlète. Enfin, tout le monde sait, beaucoup de monde fait du vélo ou court de manière récréative, et du coup ça se passe très bien, mais nager, ça s'apprend, quoi.
C'est clair, et c'est important de l'entendre aussi de la bouche de mecs comme toi qui sont partis effectivement de très loin et qui aujourd'hui performent au niveau pro, quoi. Donc moi j'étais aussi un petit peu comme toi, hein. J'ai commencé le triathlon il y a quelques années, pareil, mes premières séances de natation, le coach m'a dit de mettre des palmes pour pouvoir suivre les autres, quoi, tu vois. Donc j'étais comme ouais. Toi, j'arrivais, je faisais une longueur, j'étais essoufflé, j'en pouvais plus, j'ai cru que j'allais jamais y arriver, et tu vois, le fait de dire en fait non, je suis pas le seul, il y a d'autres mecs qui sont comme ça, et c'est pas parce que tu pars de très loin que t'es pas capable de performer par la suite. Donc non, c'est vachement important en fait d'entendre des témoignages comme le tien, quoi.
Ouais, mais je pense qu'il y a pas mal de monde qui peut se retrouver là-dedans, c'est sûr. Enfin, moi, la chance que j'ai eue, c'est quand même d'avoir un bon accompagnement dès le début. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut pas négliger, je pense, quand on essaye d'apprendre. En tout cas, c'est au moins d'avoir les bases, quoi. Parce qu'on va vite s'enfermer sinon sur une technique qui est pas bonne, ou enfin pas optimale en tout cas, et qui fait que on gagne du temps au début pour en perdre beaucoup par la suite, en fait. Et donc, grossièrement, se rapprocher de quelqu'un qui est en mesure de bien enseigner la natation, en tout cas sur les 2-3 premiers mois, c'est vraiment la première chose à faire, en tout cas si on veut boucler un triathlon à la fin d'une saison, par exemple, quoi.
Alors justement, dans ton histoire, la première chose que tu as fait, ça a été de faire un premier triathlon, puis un deuxième, de rejoindre ce sport-études. Tu nous as dit que tu as pris un peu de temps, tu as pris peut-être une année pour vraiment bien maîtriser l'élément aquatique. En parallèle, est-ce que dans ce sport-études appartenait, vous aviez aussi beaucoup de séances de natation et de course à pied? Moi, je sais que, alors je sais pas si notre histoire se rapproche un peu, mais déjà je suis un peu plus vieux que toi, mais c'est vrai que j'ai découvert le triathlon à 16 ans, et à 17 j'ai demandé à mes parents pour aller justement rejoindre le sport études de Parthenay. Malheureusement, eux m'ont dit non, mais sinon j'aurais pu faire partie des alumni et peut-être peut-être t'entraîner aussi. Bon, malheureusement c'était pas le cas. Bref, moi j'avais bien aimé justement cet aspect sport études, et donc cette alternance entre études et sport. Comment est-ce que tu trouvais la balance? Est-ce que tu étais accompagné par ça, par la structure du collège, du lycée plutôt, ou est-ce que c'était à toi de te débrouiller un petit peu?
Alors en fait, moi, déjà, vu que mes parents étaient toujours du côté de Royan pendant que j'étais là-bas, donc j'étais pensionnaire complet, j'étais à l'internat, donc c'était des règles assez strictes, en tout cas au niveau des horaires. Il y avait vraiment des groupes d'études à respecter tous les soirs après les cours. Il y avait une heure d'études obligatoire, et en général ils remettaient une heure d'études obligatoire, je sais plus, je crois que c'était après le repas. Et nous, du coup, on avait quand même des aménagements un peu spéciaux, mais c'était assez limité, ça restait vraiment plus études sport que sport études, en fait. J'étais dans une classe où j'étais quasiment un des seuls sportifs. C'était pas un sport agile à proprement parler comme on peut avoir, ouais, au CREPS, où les athlètes qui y sont dans des classes vraiment aménagées avec que des étudiants du CREPS, ont certains cours qui sautent entre guillemets pour avoir du rattrapage avec le CNED, où ils passent du coup deux fois moins de temps parce qu'ils ont un prof dédié à ça. Donc là-bas, non, c'était vraiment une classe normale en fait, avec juste deux trois aménagements d'emploi du temps fait pour que nous ce soit plus simple d'aller aux entraînements. Mais de mon souvenir, moi je me souviens en tout cas à cette époque, c'est que je trouvais que c'était quand même vraiment light. Enfin, en gros, on avait un entraînement par jour et les études, alors que dans un sport d'études ils ont au moins du bicotidien. Et de mémoire, c'était une séance de course à pied le lundi soir, le mardi soir on nageait. Le mercredi, on faisait du bicotidien le mercredi, on nageait, puis on avait vélo le mercredi après-midi.
Ouais, parce que le mercredi, c'est la journée des enfants en France. Il n'y a pas cours le mercredi, ou au moins le mercredi après-midi.
Voilà, c'est ça. On avait cours le mercredi matin. Je me souviens que ça sonnait à midi 5, je crois. Il fallait qu'on soit à midi 15 dans l'eau. La piscine était à 800 mètres. C'était la course toujours pour être à l'heure dans l'eau. Mais vu qu'il n'y avait qu'une heure de créneau, moi, je ne voulais pas louper une minute. Donc, je faisais tout. Enfin, je préparais mon sac, je me souviens, juste avant la sonnerie. J'étais le premier à être parti, quoi. Et de nouveau un entraînement de course à pied le jeudi, et le vendredi entre midi et deux on nageait. Et voilà. Du coup, souvent le week-end, je me mettais de bons entraînements parce que je jugeais que c'était trop léger. Oui, le samedi, je nageais deux fois. J'avais la possibilité de nager deux fois à Royan parce que en même temps, je passais le BNSSA. Donc il y avait un entraînement obligatoire le samedi soir, et je pouvais nager avec le club de triathlon de Royan parce que mon père était du coup licencié là-bas, il s'était mis au tri en même temps que moi. Donc bon, je me débrouillais pour me rajouter deux séances de natation le samedi, ce qui n'était pas une bonne idée, hein, avec du recul, mais mais bon, je voulais à tout prix progresser le plus rapidement possible, mais bon, ça a pris plus de temps que ce que j'espérais en tout cas.
Ouais, ça a payé. Ouais, ce que j'allais dire, c'était peut-être pas une bonne idée à première vue, mais finalement ça a dû t'aider quand même, hein, d'un point de vue technique et puis d'un point de vue acceptation de la charge, non ?
Peut-être au niveau de la charge plus que de la technique, parce que je me retrouvais à renager le samedi soir, mais j'avais pas la caisse du tout pour supporter ça, en fait, je me souviens. Et je me faisais vivre des petits enfers, à vrai dire, mais bon, j'étais dans l'eau. Et c'est vrai que dans tous les cas, du temps passé dans l'eau, à partir du moment où la base technique est correct, je pense que c'est toujours du temps.
Oui, c'est ça, c'est pas comme en course à pied, quoi, tu vois, où t'as un côté un peu traumatisant, où tu risques la blessure, bon, a priori en natation, à moins de vraiment trop. Enfin, faut y aller, quoi, pour te blesser en natation.
Ouais, c'est vrai. Non, ouais, c'est vrai que quand tu vois que les meilleurs nageurs à 12 ans, 12, 13 ans, ils commencent déjà à faire du bicotidien.
Moi, je me souviens d'un stage à Font-Romeu que j'avais organisé avec un copain en 2008, donc ça remonte déjà. Et il y avait l'équipe de France junior qui était en stage en même temps que nous. Les mecs nageaient 20 km par jour. On a de la marge. Hein. Bon, c'était l'équipe de France natation, mais...
Moi qui suis content de moi quand je fais 3 km.
ok, donc ton histoire avec le triathlon démarre vraiment avec ce sport études. Tu nous as dit que tu débrouillais pour rajouter un peu de natation le samedi, pour pouvoir progresser. Et le dimanche, justement, c'était sortie longue en vélo et en course à pied avec papa.
Ouais, voilà, exactement. Il y avait le club de tri de Royan du coup qui faisait sa sortie longue. Donc ouais, en gros, j'avais pas complètement raccroché encore avec le VTT non plus, donc j'allais participer à quelques randos à droite à gauche de temps en temps, ou alors la sortie longue avec le club de tri de Royan. C'est marrant parce que il y a un des speakers en France là, qui s'appelle Stéphane Garcia qui était président, il me semble, du club à l'époque, et donc ils me voyaient arriver comme ça, et eux, en fait, le dimanche, c'était vraiment leur sortie où, tu sais, ils se faisaient des séries, des relais, des trucs comme ça, et j'essayais de me greffer. Et je sais pas pourquoi, dans ma tête, j'avais l'impression qu'ils voulaient tous me faire sauter, je sais pas pourquoi. Et on en a reparlé, là, il y a deux semaines, il m'a reparlé de ça, du coup, à Aix, là, comme il était speaker, ça lui est revenu, enfin, du coup... Un bon souvenir, c'est des bons souvenirs tout ça, c'est des bons souvenirs.
Et donc c'était le cas, ils essayaient de te faire sauter ou pas?
Moi je pense que oui, mais personne ne voudra jamais l'avouer.
Non mais parce que c'est vrai qu'il y a un truc, et je crois que c'est vraiment un truc qui est propre au cycliste, quoi. Il y a un espèce de, tu sais, je sais pas, le cycliste il a un petit ego comme ça, ou quand t'as un petit nouveau qui débarque dans la bande ou quoi, ou alors si toi t'es le petit nouveau, il faut que tu fasses tes preuves entre guillemets, quoi, tu vois. Enfin, je sais pas si vous me rejoignez, mais.
Et puis un petit cadet qui arrive comme ça, sorti nulle part, ça ne veut pas leur plaire non plus, je pense.
Ouais, va falloir lui apprendre comment ça marche chez nous.
On est d'accord. Même si c'est toujours dans la bienveillance, hein, mais c'est vrai qu'il y a toujours ce petit côté de ah, tiens, vas-y, c'est qui va arriver en haut de la côte, tu vois.
Oui, oui, c'est ça, exactement. Ouais. Non, c'était carrément dans la bienveillance, mais j'avais le sentiment, enfin, mon sentiment, c'était vraiment que à chaque fois, je prenais mon relais et celui qui passait derrière moi, il allait appuyer encore vraiment plus que le relais qui était censé être pris, quoi. Mais bon, j'étais peut-être tout simplement rincé. Hein.
Bah, faut croire encore une fois que ça t'a réussi.
Ouais, ouais, faut croire, ouais, ouais, faut croire.
Après, je pense qu'il y a pas de secret. Faut aller se frotter au meilleur et voilà, c'est comme ça que tu progresses, quoi. Tu sors de ta zone de confort, tu te prends quelques baffes au début, c'est clair, mais c'est comme ça que tu t'améliores, quoi.
Ah ouais, ouais, carrément, ouais, carrément. Bah, en tout cas, moi, pour moi, à l'époque, comme je venais du VTT, j'avais quand même pas mal la caisse directement en passant sur Belleroute. Mais bon, c'est tout ce qui était spécificité, comme je te disais, là, tu sais, les prises de relais, ce genre de choses, j'avais pas trop l'habitude de faire ça. Et au final, je pense que j'étais super généreux, moi, dans ma prise de relais, et que quelqu'un derrière puisse en remettre plus, je me disais, mais non, c'est pas normal, il veut vraiment me faire sauter, quoi. Ouais, comme tu dis, ça a été pas mal éducatif, en tout cas. Sans que ce soit voulu, ça a été un petit parcours qui m'a bien convenu parce que finalement, je voulais toujours en mettre plus, mais j'avais sûrement pas les capacités de le faire. Et d'avoir juste un entraînement par jour à la semaine quand j'étais appartenu et le week-end où bah, du coup je devais faire trois entraînements le samedi et le gros vélo le dimanche, ça a été. Je pense la dose idéale, en tout cas pour moi, pour débuter, quoi.
On va passer justement sur... donc là, tu étais en première, on va passer sur la terminale, le bac. Quoique, qu'est-ce qui fait qu'une fois que tu as ton bac en poche, tu décides à aller à Montpellier? Est-ce que c'est pour les études? Est-ce que c'est pour le centre d'entraînement? Est-ce que c'est un mix des deux? Est-ce que c'est pour un conjoint, une conjointe? Comment ça se passe?
Alors, bah, tu as trouvé un bon truc à lire, encore. En fait... J'étais carrément mordu par le virus du triathlon dès la première et la terminale. Hein. Mais je faisais aucun résultat parce que chez les jeunes, c'est que du sprint en drafting. Et en nageant comme je nageais, j'avais vraiment pas la possibilité de poser bien le vélo et pouvoir m'exprimer en course à pied, quoi. Donc j'ai pas fait de résultat jeune, mais j'avais ce petit truc dans un coin de ma tête de me dire « Ah quand même, je pense qu'il y a un truc à faire, ça me plaît bien, quoi ». Donc ce que j'ai fait, c'est que j'hésitais vraiment entre faire des études vraiment poussées, j'avais pas mal envie d'aller faire médecine, à vrai dire.
Ok.
Ou me dire, bon, bah, peut-être que tu fais des études un peu moins compliquées, mais tu pourras vraiment faire du triathlon à côté et continuer de t'épanouir dedans et voir jusqu'où ça peut aller, quoi. Et comme j'arrivais pas à me décider, je suis parti un an en Australie, en fait.
Truc classique, quoi.
Et le truc, c'est que là-bas, le triathlon, c'est quand même pas un sport national, mais pas loin, quoi.
Bah, en Australie, t'as le rugby et puis t'as le triathlon,
ouais,
quoi.
Ouais, c'est ça. Et en fait, j'ai rencontré des gens vraiment super et qui m'ont encore plus donné envie de me lancer à fond là-dedans. Et donc, bon, je suis pas allé pour rien non plus. Hein. J'ai un peu travaillé, je m'étais payé des cours d'anglais pour essayer de revenir bilingue, quoi. Et que ce soit un plus pour moi pour mes études par la suite. Et du coup, j'ai atterri à Sydney au début, j'ai fait 2-3 mois là-bas, puis j'ai voulu aller voir un petit peu ailleurs comment ça se passait pour pas rester qu'à Sydney, d'autant qu'en fait, il y a beaucoup, beaucoup de Français à Sydney, je me retrouvais tous les jours à parler la moitié de la journée en français.
Ça a dû quand même aussi impacter un petit peu ton statut de triathlète quand on foule des terres qui vont devenir ou qui ont été des terres de triathlon.
Ouais, non, complètement. D'autant qu'il y avait la WTS à l'époque à Sydney qui était là-dessus sur le parcours des JO. Et ben en plein. Enfin, quand j'étais à Sydney, il y a eu le triathlon, j'ai pas pu vraiment voir parce qu'il fallait des accès et tout, mais j'ai vu ça de loin en tout cas. Et les Français, c'était Davidos à l'époque et Laurent Vidal qui marchaient super fort. J'étais carrément fan de Laurent Vidal d'ailleurs. Enfin, je le trouvais vachement inspirant ce gars sur son approche et son éthique. Et même ses résultats, enfin, il se donnait les moyens de performer et c'est ce qu'il a fait, quoi. Et du coup, en fait, la mentalité là-bas est pas mal différente de celle en France. Tout le monde, enfin, en tout cas, les personnes que je côtoyais, tout le monde faisait du sport avant le boulot, tu sais. C'est un rythme qui est différent, le soleil est levé super tôt. Et du coup, avant le boulot, il y avait tout le temps des swim bof, enfin tu sais, en mer, ça nageait en mer, ou alors ça nageait à la piscine de Yantorp, là, je me souviens, c'était l'ITAC, le Yantorp Aquatic Center, un grand bassin de 50, magnifique. Donc je m'étais greffé un petit groupe d'entraînement comme ça. Et je sais pas, enfin, le gars, en l'espace de 2-3 mois, j'avais jamais nagé autant de ma vie, en fait. Il m'avait fait progresser de dingue. Et du coup, je prenais plusieurs fois à nager, en fait, et je pense que ça a pas mal participé au fait que j'ai persévéré comme ça par la suite, parce que il m'a, en tout cas, dans son discours, il était persuadé que j'avais des capacités pour réussir. Il me voyait rouler, il voyait que ça marchait bien en course à pied. J'allais faire les séances avec le groupe, je faisais tout. Enfin, je savais même pas ce que je faisais, à vrai dire.
Au début, que là, t'avais l'impression que la seule chose qu'il cherchait, c'était à te faire péter ou plus du tout?
Non, là, pour le coup, plus du tout. Mais, mais c'était. Étant donné que je comprenais pas tout au début, je me souviens, c'est... je suivais des fois, je comprenais pas l'entraînement. Il y a des trucs à s'étirer par les cheveux quand même. Et puis je lâchais rien, je sais pas, enfin on discutait pas mal et moi j'étais vraiment pas sûr de que par la suite j'allais tenter d'être triathlète pro, quoi, mais ce premier contact, en tout cas, il m'a un petit peu aussi donné l'envie de persévérer et de me dire ouais, il y a quand même sûrement quelque chose à faire, sans parler de capacité physique ou quoi, mais en tout cas j'y prends beaucoup de plaisir, donc autant persévérer, quoi.
Ok, et du coup c'est de là que tu t'es dit bon bah voilà, une année de césure en Australie, maintenant je sais ce que je veux faire, je veux faire des études dans le sport et mixer tout ça avec le triathlon.
Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Là au moins j'étais sûr que ce serait pas le mauvais choix, en tout cas ce serait un choix que j'assume et que je prends pleinement et que je vais essayer d'embrasser, quoi.
Faut croire que l'Australie est révélateur de talent, souvent c'est un peu un classique de je sais pas quoi faire, je vais en Australie et puis je trouve ma voie, donc
tu nous l'as dit, tu reviens après une année de césure en Australie en France, tu choisis Montpellier pour t'installer, pour mener de front études et commencer une vie de triathlète professionnel. Alors justement, comment est-ce que tu décides? Est-ce que c'est plutôt la vie de triathlète professionnel qui vient à toi, ou c'est toi qui te dis tiens, je vais me lancer aussi à fond là-dedans et puis on va voir ce que ça donne?
Alors en fait, j'ai choisi Montpellier parce que je savais que c'était un des vrais gros spots pour faire du triathlon en France. J'avais pas trop idée de comment ça allait se dérouler une fois là-bas, mais en tout cas moi j'étais déjà venu 2-3 fois plus jeune dans la ville et j'avais vraiment adoré, donc j'étais vraiment confiant sur mon choix que Montpellier ce serait la ville pour se faire ça, quoi.
C'est vrai que tu l'as bien vendu là pour l'instant. je sais pas si l'Australie ou Montpellier, mais moi ça me donne envie de voyager.
Je pense qu'on va contacter les offices de tourisme de Sydney et de Montpellier, puis on va leur demander un petit sponsoring.
Pas de problème, je suis preneur. Non, ouais, du coup, j'ai eu pas mal de chance aussi, je pense. Il y avait le club de la ville, du coup, le Montpellier Triathlon, là, le MAT, où ils venaient juste de monter une équipe de D3 l'année d'avant et ils étaient montés en D2 pour l'année où je suis arrivé. Du coup, il y avait vraiment un groupe de performance qui se montait dans ce club-là, là, où on s'est retrouvés avec pas mal de collègues à moi qui font toujours du triathlon. Je me souviens, Antoine Muller, qui est un de mes super potes, que j'ai rencontré du coup ici, qui faisait comme moi, qui était vraiment de la même année, mais du coup en deuxième année de STAPS, comme il n'avait pas pris la petite année.
Qui serait pas par hasard le frère de Mathieu Muller, qu'on a déjà reçu sur ce podcast?
Voilà, exactement. c'est un des trois de la fratrie. Du coup, c'est le plus grand, Antoine. Il y avait un autre jeune, Thomas Défense, qui était vraiment... vraiment super doué, qui lui avait fait des podiums nationaux chez les jeunes, du coup qui était aussi avec nous dans ce groupe-là. Et puis un coach en fait qui était super dédié, qui entraîne toujours ce petit groupe élite à Montpellier, là, du Montpellier Triathlon, c'était Romain Bresson qui a monté ça. Et du coup, bah, en fait, j'ai eu la chance d'arriver là-dedans directement et de me retrouver avec une possibilité de m'entraîner vraiment, vraiment top. On avait à l'époque, c'était juste 4 à 5 entraînements en natation d'une heure et demie. C'était quasiment tous les matins avant les cours. Donc même si au début ça m'a fait bizarre de me lever avant 6h pour aller nager, c'était quand même vraiment le top, parce qu'on avait la possibilité d'organiser toute notre journée derrière. Et du coup, année après année, dans ce petit groupe, j'ai fait qu'évoluer en préparant au début vraiment que de la courte distance. Donc il y a eu 2 années en D2. Puis après, on est monté en première division. Donc moi, j'ai refait 2 années en première division avant de basculer vers le long. Et du coup, en fait, le fait d'avoir le groupe, encore une fois, et les possibilités de s'entraîner, en tout cas au niveau des créneaux de natation, parce que c'est vraiment le nerf de la guerre, hein, si on n'a pas de créneaux de natte, c'est comment ça va être compliqué de jongler avec les créneaux publics, où des fois on n'a même pas la possibilité de vraiment faire une séance parce qu'il y a trop de monde, tout ça. Donc, dans mon souvenir, en fait, ça a été super fluide. C'est que je me prenais pas la tête. Moi, ce que je voulais faire, c'était valider ma licence TAPS dans un premier temps et essayer de m'entraîner le plus possible, en tout cas avec les capacités que j'avais du moment. Donc, je sais plus trop ce que ça représentait, mais grossièrement, la première année, je devais m'entraîner une vingtaine d'heures par semaine. Puis la deuxième année, je voulais en faire un peu plus. Donc, ça devait tourner autour de 22, 23, 24 la troisième. Puis la quatrième, j'ai commencé à vraiment prendre la chose à bras le corps et m'entraîner, je pense, vraiment comme un triathlète pro. Et du coup, je continue toujours mes études. Mais donc ça, c'était l'année de mon master où j'ai commencé à me dire bon.
Ça devient dur de mener les deux.
Ouais, ça devient dur de mener les deux, sachant que pour la première année de master, étant donné que j'avais tenté de faire un master en recherche, ça me plaisait pas mal sur tout ce qui était physio de l'effort, en fait. Et donc j'avais un des professeurs du STAPS que j'appréciais beaucoup, qui m'avait pris en gros comme stagiaire dans son labo. Et en fait, plus j'ai avancé dans ce projet de mener les deux, plus je me suis rendu compte que en fait, ça devenait de moins en moins compatible. Pour la deuxième année de master, en fait, j'aurais même pas eu la possibilité d'aménager mon emploi du temps. Donc, moi, j'ai décidé de me consacrer pleinement au triathlon. Ça a été un choix assez difficile à faire, mais que je regrette vraiment pas aujourd'hui, en tout cas.
Alors, ma question, tu y as un petit peu répondu. Celle qui allait venir après, c'était justement comment est-ce que tu as découvert le long ? Alors, tu nous as dit que tu as fait 2 ans en D2, 2 ans en première division. Tu peux nous rappeler un petit peu les spécificités de la D2 ou de la première division en France pour les auditrices et les auditeurs francophones qui connaissent pas toujours le système français, même si, on le répète souvent, on a quand même la chance, entre guillemets, en France, d'avoir les meilleurs mondiaux qui viennent sur ce fameux circuit Grand Prix, première division, appelons-le comme on veut, quoi.
Ouais, non, ça c'est clair que c'est un truc assez exceptionnel qu'on a ici. C'est, déjà, moi, le circuit des deux, c'est deux de mes meilleures années, sur court distance. Je me souviens, en fait, on a 4 étapes sur format sprint en drafting, réparties dans l'année. Et en gros, les 3 premiers du classement des deux montent en D1, tandis que les 3 derniers du classement de D1 descendent en D2. C'est un niveau qui est déjà très, très, très costaud. On se retrouve avec beaucoup de jeunes, en fait, qui sont super performants, qui courent très, très souvent sur Coupe d'Europe ou voire sur Coupe du Monde, et qui sont juste dans les clubs qui souvent les ont formés depuis les années jeunes jusqu'au niveau qu'ils ont actuellement. Et moi, en fait, sur chaque étape, depuis la première à la dernière étape de D2, je me souviens, j'ai à chaque fois amélioré mon classement.
Ah, ce qui est pas mal.
Ouais, ce qui était pas mal, sachant que j'étais pas encore vraiment bon nageur. Donc sur les formats drafting, ça dépend tellement de ça que j'ai eu pas mal d'étapes, en tout cas sur la deuxième saison, où je me retrouvais à sortir quand même correctement aux alentours de la 30-40e place, mais essayer de faire un gros travail à vélo pour rentrer, sachant que j'étais vraiment le moins bon nageur de l'équipe. Donc si j'essayais de rentrer, il fallait vraiment que je rentre tout seul. Ça a été pas mal formateur aussi par la suite, et ce qui m'a poussé, en fait, à basculer vers le long après, c'est de me dire bon, si en D2 tu arrives à faire des petits efforts solitaires comme ça pour rentrer, ça veut dire que c'est quand même un truc qui devrait même marcher sur du sand drafting et sur du long par la suite. Donc du coup, ouais, pour revenir à ça, 2 années de D2, puis 2 années de D1, où du coup en D1 on se retrouve avec je crois que c'est 16 clubs, les 16 meilleurs clubs nationaux, ou parmi les 16 meilleurs clubs, on va dire que les 5 le potentiel top 5 se met à recruter tous les meilleurs internationaux. Donc moi, j'ai pris des départs avec les frères Wonley, avec Javier Gomez. Ça reste des bons souvenirs. Je me souviens passer la première bouée à Dunkerque une année avec Javier Gomez.
Ouais, ça va, t'avais bien progressé en natation alors à ce moment-là.
Ouais, sauf qu'en fait, je passe la première bouée.
Lui, il bouclait son premier tour.
Je me retrouve à être... Non, il bouclait pas son premier tour, mais je me retrouve du coup. J'étais complètement dans le rouge. Je passe la première boucle qui est super proche à Dunkerque. Et lui a dit, après la course, avoir fait l'une des pires nades de sa carrière. Et moi, j'ai complètement explosé par la suite. Et je me suis retrouvé à sortir, je sais plus, dans les 10 derniers encore une fois sur l'année. Ça a été un long chemin de croix après pour rallier la ligne d'arrivée. Parce que c'est beaucoup moins fun l'AD1 quand t'es pas dans les groupes de tête, ça je peux vous l'assurer. Quoi.
Bon alors, deux années de D2, deux années de D1, Grand Prix, je sais même plus comment ça s'appelle maintenant, le Grand Prix FF3.
Ouais, c'est ça, Grand Prix FF3.
Et qu'est-ce qui fait que tu vas basculer vers le long? Est-ce que c'est un petit peu comme quand t'as découvert le triathlon, c'est-à-dire un copain ou une affichette quelque part qui te montre un triathlon, déjà un court de distance ou un M, et puis tu te dis, bon allez... je vais aller voir ce que c'est, je vois de la lumière, je vais passer la tête, ou c'est plutôt un choix de réorientation de ta carrière?
C'est pas mal de choses. Déjà, moi, parallèlement à la D1, je faisais pas mal d'épreuves sans drafting, mais sur courte distance en France, il y a pas mal de triathlons qui sont organisés comme ça. Il y avait les championnats de France universitaires qui étaient pareil sans drafting, où j'avais obtenu le titre en 2015, il me semble. Pareil, en groupe d'âge, j'avais pris le titre la même année, c'était pareil sur du sans drafting. Et j'avais remporté quelques épreuves ou alors fait des podiums sur les gros triathlons, enfin, qui ont une réputation, en tout cas sur le sans drafting, pareil en France. Il y a Mimizan, il y a Noitre, il y a Cassis, j'en oublie pas mal, mais toutes ces épreuves, en tout cas, qui sont pas mal historiques en France et qui proposent souvent du coup un prize money intéressant qui font que il y a pas mal de monde qui vient. Et moi, je me retrouvais performant face à des gars qui faisaient du longue distance, en fait. Et donc, bon, ça commençait à vraiment titiller l'esprit de me dire bascule là-dessus complètement, parce que dans tous les cas tu feras pas carrière sur cours, Arthur. T'as beau essayer de mettre tout ce que tu peux en natation pour progresser, il y a un hiver où je nageais 35 bandes par semaine, bon ça m'a pas fait sortir non plus devant l'année d'après sur les grands prix, donc je restais assez persuadé que commencer la nat à 15 ans pour être parmi les meilleurs mondiaux en natation, ça ce serait rédhibitoire, quoi. Du coup
Bon, alors attends Arthur, parce que du coup on disait justement l'autre jour que ton discours était très inspirant pour tous les triathlètes qui savaient pas nager, qui se disaient c'est bien, on est en train de leur donner espoir. Là t'es en train de nous dire que t'as passé un hiver à nager 35 km par semaine et tu dis je progressais plus, quoi, donc...
Non, il faut que tu rattrapes le coup là, s'il te plaît, remotive nos auditrices et nos auditeurs.
Je peux rattraper le coup assez facilement. Non, à vrai dire, j'ai fait ça en pensant que ce serait la solution, mais je pense que j'ai brûlé quelques étapes. Je faisais ça en fait à Montpellier, il y avait des créneaux pour les élites le matin et pour, entre guillemets, les comptages le soir. Donc moi j'allais juste à tous les créneaux. Sauf que c'était pas très intelligent de faire ça finalement, parce que ce qu'il aurait fallu, c'est avoir rejoindre un club de natte, avoir un vrai accompagnement avec un coach dédié. Pas essayer de brûler les étapes, je pense qu'il y avait des progrès vraiment techniques à faire avant de vouloir se mettre le plus de volume possible. Et moi, en fait, je me suis enfermé dans une nage où, au bout d'un moment, en fait, ma technique me permettait plus de progresser et le volume que je faisais, il était déjà, je pense, optimisé à fond pour ça, quoi. Donc ça a pas marché, hein, mais bon.
Oui, il y a un truc que je me suis toujours posé comme question, c'est si tu fais beaucoup de volume et que ta technique est mauvaise, est-ce que du coup tu te fais pas plus de tort que de bien? C'est-à-dire tu vois, est-ce que tu vas pas ancrer finalement des habitudes, des mauvaises habitudes, et que ce sera d'autant plus difficile par la suite, tu vois, d'éventuellement améliorer ta technique?
Ouais, mais je pense carrément que c'est ça. Moi c'est vraiment ce qui m'est arrivé, je pense. C'est que oui, comme je te disais, je me suis enfermé dans une technique qui était pas optimale, parce que déjà quand on n'est pas nageur, on n'a pas forcément la souplesse d'épaule qu'on peut voir chez quelqu'un qui a grandi dans l'eau, où c'est fluide, où ça fait pas le bruit quand ça nage, ça tape pas l'eau. Moi au final j'étais vraiment l'opposé de tout ça, quoi. Et forcément j'ai progressé, parce que à passer autant de temps dans l'eau, le physio on l'améliore, et sur la technique qu'on a, en tout cas on optimise tout ce qu'on peut optimiser. Mais je pense que si on m'avait filmé nager à cette époque et qu'on me filmait aujourd'hui, 5-6 ans après, je pense que les deux techniques n'ont rien à voir, parce que par la suite j'ai pris le chemin de me dire j'ai pris le choix de me dire non, mais arrête les bêtises, ça marche pas, ça n'a pas marché. Enfin, en fait j'ai progressé peut-être les 2-3 premières semaines, je me souviens, et après c'était niveau même palier tout le temps. Et moi par la suite, en fait, j'ai arrêté de nager avec un groupe de tri pour rejoindre un club de nat où on a repris les choses avec le coach au niveau technique et tout, et je fais quasiment que ça depuis, et j'ai quand même le sentiment de progresser d'année en année, même si Il y a eu quelques galères ces derniers temps qui ont fait que j'ai plus la caisse nécessaire maintenant pour m'exprimer en eau libre. Mais bon, ça, je devrais être capable de rattraper le coup par la suite. Mais tout ça pour dire, ouais, je pense qu'il faut carrément placer technique à mon volume en natation, ça c'est essentiel.
Bah, je pense que c'est pas que en natation, hein, dans les trois sports, mais principalement en natation, où effectivement la technique va être maîtresse de beaucoup de choses, et notamment, c'est quand même la première épreuve du triathlon, et donc se fatiguer, entre guillemets, inutilement, avec une technique qui n'est pas tout à fait optimale, ça peut gréver tes chances pour la suite.
Ouais, bah, carrément. On perd plus de temps à vouloir se battre avec l'eau qu'à vouloir être relâché et fluide, ou... Il y a pas mal de choses comme ça, même des exercices techniques à faire tout bête, mais par exemple essayer de nager relâché sur un 50 mètres et essayer de nager bras tendus ou je sais pas en étant crispé, on se rend compte que on va beaucoup plus forcer pour nager le même temps sur le bras tendu que sur le relâché, enfin des choses comme ça en fait. Ça veut vraiment dire que pour moi la natation, enfin faut avant tout essayer d'être relâché quoi. Et par la suite, essayer de bosser là-dessus, quoi. Mais bon, moi, j'ai pris pas mal de temps à faire les choses à l'inverse, quoi.
Justement, t'as pris pas mal de temps à faire les choses à l'inverse. Malgré tout, t'as pris ce virage de passer du très court au peut-être un peu moins court et après bifurquer vers le long. J'avais quand même une question que finalement, t'as été relativement guidé dans ton parcours de découverte du triathlon. Depuis tes premiers triathlons jusqu'au sport-études, jusqu'après ta découverte vraiment de ce que c'était le triathlon quand t'étais en Australie, puis quand t'es revenu en France, que t'as intégré STAPS et que t'as mêlé un petit peu les deux. Malgré tout, tu décide de te lancer dans le long. Alors, je le rappelle, en France, surtout dans le long, dans le circuit Ironman, on n'est pas du tout accompagné par le ministère des Sports. On n'a pas ce statut de sportif de haut niveau. Et c'est un point que je pense que je voudrais qu'on aborde, c'est cet aspect vivre de son sport, vivre de et par sa passion. Qu'est-ce qui fait que tu as vraiment eu ce déclic? Tu t'es dit, déjà d'un point de vue sportif, oui, je vais y aller, je vais aller voir ce que ça donne, je vais aller regarder, il y a de la lumière qui passe à travers la fenêtre, je vais aller ouvrir la fenêtre, voir ce que ça donne. Et puis deux, est-ce que tu t'es posé la question de vivre de tes revenus justement issu du sport ou autre?
Ouais complètement. Bah, en fait, en effet, il y a quand même eu un petit déclic. Il y a eu une épreuve notamment que je suis allé faire avec Bertrand Billard, qui
qu'on salue et puis
qu'on peut saluer.
Je sais pas s'il nous entend, mais en tout cas, on le salue.
Et que alors, il vous entend pas, mais il vous salue en tout cas. Ouais.
Ça va, cool.
Et en fait, c'était le 51-50 de Marseille, donc ça a été une des dernières épreuves sur ce format. À l'époque, le circuit Ironman, il proposait un court distance sans drafting, et qui était quand même professionnel, donc avec un accès à une grille de prix. Et de mémoire, pour moi, ça a été la dernière épreuve qui a été courue même en France et je pense dans le monde avant qu'il ferme complètement ce circuit. Et ça a été une course où j'ai été super bien toute la course. Je termine deuxième, il y avait quand même un beau plateau.
Quand tu nous rappelles le format de la course?
Du coup, 51-50, donc c'est du court distance, donc c'est 1500 mètres de natte, 40 de vélo et 10 à pied.
Ok.
Et le tout, c'est sans drafting. Donc moi, j'étais là avec mon vélo de chrono. Je fais une natation pas géniale. Je me souviens, la mer était un petit peu démontée. On s'était mal orienté avec. J'étais dans l'eau avec Bertrand Billard de mémoire, tout mis des gammes. Et bon, on s'était un petit peu perdu, on était sorti à quasiment 2 minutes de Carl Shaw et deux, trois autres gars qui étaient assez, assez bons nageurs. Et je monte sur le vélo et c'était un bon jour, tu vois. J'avais vraiment des bonnes jambes, donc je fais quasiment tout le vélo devant pour reprendre quasiment tous les échappés, sauf Carl Shaw qui était parti, qui nous avait mis, je crois, 2:30 dans l'eau quand même. Et j'avais dû poser à 2 minutes derrière. Et j'arrive à faire un super 10 km pour sécuriser ma deuxième place. Et ouais, je prends vraiment un plaisir fou. Et bon, je commence à me dire, ouais, c'est vrai que ouais, y a peut-être quelque chose à faire quand même, vraiment. C'est sympa, ça me plaît. Et pour le coup, quelques semaines après, je vais à Cassis, du coup, de nouveau avec Bertrand Billard. Et on a cette discussion très sérieuse où il me dit, bon, quand est-ce que tu te mets au long, Arthur? Enfin, en fait, il m'a pas mal ouvert les yeux sur le fait que si je voulais me lancer à fond là-dedans et tenter quelque chose en tant que professionnel, ça allait pas être sur courte distance, clairement, que j'avais moi les armes en tout cas pour m'exprimer. Ou alors je pourrais devenir peut-être, pourquoi pas, un très bon athlète de D1 par la suite. Mais il y avait vraiment un gap trop énorme sur la natation, en tout cas avec des gars comme Pierre Lecor, du coup, que je côtoyais pas mal. Quand j'allais faire des séances d'entraînement avec lui, j'avais beau avoir progressé, il était en mesure de faire, je sais pas moi, 10 fois 100 départ une 15 en grand bac, Moi, je galérais à faire 10 fois son départ élevant encore à cette époque, donc c'était vraiment deux mondes d'écart, quoi. Bah, en fait, j'ai pris le virage vraiment à ce moment-là. Après le triathlon de Cassis, j'ai pris l'hiver, ça devait être 2017, je me sens, où je me suis vraiment orienté sur le long. Et j'ai commencé, j'ai fait mon premier long l'année d'après. C'était début mai à Bilbao, en Espagne. Là, j'avais fait quatrième après avoir mené la course pas mal et complètement explosé, pour le coup.
Bon, c'était quand même une belle entrée en matière, parce que quatrième sur un premier long, c'était quel format? C'était 70.3.
Ouais, c'était format 70.3. Ouais, c'était un premier long. Après, c'était pas une course du circuit Ironman, mais c'était une course quand même pro, parce qu'il y avait vraiment un beau prize money, digne de ce qu'on peut avoir sur Ironman, voire même pas mal mieux, je me souviens. Et pour le coup, je connaissais pas les adversaires. Enfin, j'étais allé comme ça à la fleur au fusil et j'avais fait une bonne natation, en fait, qui fait que, parce que ça nageait pas très très fort, et à cette époque-là, j'étais quand même pas mal en forme en natation, parce que je venais encore de, je pense que le bénéfice.
C'était 35 heures semaine.
Ouais, voilà.
35
heures. Ouais, c'est ça, exactement. Le bénéfice, il avait payé, mais peut-être un an après.
Ouais.
Et du coup, bonne natation, je sors de l'eau, vraiment au contact. Et en vélo, il y avait une bosse directement. Je la monte à fond parce que je venais du cours et j'étais encore un petit peu débile. Je gérais pas du tout mes courses. Et du coup, je me retrouve en tête directement, en fait, au bout de deux bornes. Sauf que je savais pas trop que j'étais en tête. Et jusqu'à ce qu'il y a.
Tu savais pas que t'étais en tête?
J'étais pas sûr parce qu'il y avait les filles qui étaient parties avant. Et il y avait encore du monde. Enfin, j'étais pas certain. Enfin, en fait, je me disais bien que j'étais en tête, mais j'étais pas mal surpris d'être en tête, en fait. Donc je me disais.
C'est bizarre. C'est bizarre. Il y a un truc louche. J'ai dû rater quelque chose.
Il va se passer quelque chose. Et du coup, comme je te dis, je connaissais pas les adversaires. Et il y a un gars qui me revient, qui revient sur moi. Je sais plus trop, vers le 20-30e kilomètre. Et qui, au moment de la bosse, il y avait une bosse. Il y avait un truc. Le triathlon est magnifique là-bas, mais il y avait une patate de 4 bornes en plein milieu du parcours. Et le mec monte ça à fond. Et vraiment à fond, quoi. Et moi, je veux pas lâcher. Donc je monte à fond avec lui. J'avais pas encore le capteur de puissance à l'époque, mais je pense que ça frisait les 450 watts. Honnêtement, j'étais à PMA.
Ah ouais.
Et je me dis, ouais, il bluffe. Je repensais à la scène de la Cité de la Peur. Il bluffe Martoni, quoi. Je l'avais vu pas longtemps avant. Et il bluffait pas. Donc je monte ça à fond, sauf que moi, ça m'a complètement ruiné le reste de la course. Et sur le faux plat d'après, faux plat montant à la fin de la bosse, ben, je me rends compte qu'il ne le fait pas parce qu'il en remet. Et au final, je me retrouve esselé comme ça. Et je me souviens, c'était deux boucles. Et je passe au 45e en me disant, si je dois courir là, ce sera compliqué déjà.
Alors que là, tu as encore une deuxième boucle, la même à refaire.
Il y avait la deuxième boucle et j'étais pas du tout au point niveau nutrition. Au final, je me suis payé une hypoglycémie de l'espace. J'avais mal au ventre, c'est premier.
T'es déjà sur le vélo?
Ouais, non, sur le vélo, en fait, j'avais pris un bidon et un gel, je m'étais dit, ça suffira, c'est bien, quoi.
Le mec qui vient du cours, quoi.
Voilà, exactement, le mec qui vient du cours. Quand je fais le parallèle maintenant entre ce que je mange sur le vélo par rapport à là, enfin, je pense qu'avec sur une épreuve comme mec, j'ai mangé 4 fois plus que j'avais pu manger là, quoi. Et du coup, je pose le vélo forcément complètement rincé. Je me fais reprendre par deux gars, genre, à 500 mètres du parc, enfin, vraiment, littéralement à 500 mètres du parc, ils me passent. Et je pose derrière eux, du coup, et ça part à pied. Je me souviens, j'ai mon gel dans la main et je veux le manger, mais j'y arrive pas. L'idée d'avaler un gel à ce moment-là me répugne vraiment. Et donc, même à un moment, je me retrouve 8e de la course, il me semble. À partir du 5-6e kilomètre, j'arrive à manger mon gel. Et je me relance et au final, je finis 4e. Alors que j'étais remis même 3e et je me refais prendre au dernier kilomètre. Enfin, voilà. Une vraie galère cette course, mais bon, un beau souvenir quand même.
Mais malgré tout, c'est ce qui a lancé ta carrière sur du long.
Ouais, voilà, exactement. Ouais. Après ça, c'était acté. Et ouais, c'est ça, 2018. Hein, 2018, c'était le début du long, ouais, pour de vrai pour moi.
Puis bon, c'est quand même un gros changement aussi, cette transition, parce que tu venais du VTT aussi, où c'est beaucoup de relance, tu montes très haut au niveau des pulsations, et puis tu te retrouves sur un format longue distance où en fait, l'idée, c'est pas du tout de monter dans les pulses, au contraire, c'est de les garder le plus constantes possible. Enfin, tu vois, c'est vraiment une autre philosophie, quoi.
Ouais, complètement, c'est carrément l'opposé de ce que je faisais en VTT. Surtout, j'étais ça jeune, où les efforts, ils faisaient globalement une demi-heure, trois quarts d'heure. Et c'était carrément à fond tout le temps, en fait. Un VTT, c'était trois quarts d'heure. C'était un CLM individuel, mais sur trois quarts d'heure, quoi, maximum. Mmh. Là, on se retrouve à tripler le temps en se disant qu'il faut encore courir derrière. Et j'avais pas encore du tout axé mon entraînement suffisamment sérieusement là-dessus, quoi.
Alors, Arthur H, de ton pseudo, notamment dans les signatures de mail.
Oui, voilà, notamment ça me permet de garder un petit peu de confidentialité, notamment depuis ma victoire à Aix, où je suis sollicité quotidiennement de manière assez folle. Rien de tout ça n'est vrai, mais. mais ouais, c'est un petit pseudo, voilà, tout simplement.
Bon, bah en tout cas, Monsieur H, est-ce que vous pourriez revenir avec nous un petit peu sur ces quelques années au plus haut niveau en tant que triathlète professionnel en longue distance? Alors déjà, on en a longuement parlé dans ce podcast à de nombreuses reprises, mais peut-être nous rappeler comment est-ce qu'on évolue quand on est triathlète professionnel longue distance sur le circuit Ironman en France? Est-ce que on est accompagné? Est-ce que est-ce qu'on est soutenu, ou est-ce que tout est à faire du côté du sportif?
Alors non, pour le coup, pas d'accompagnement, du moins au niveau fédéral. On court sur un circuit qui est privé, le circuit Ironman, qui lui-même propose des courses professionnelles. Donc certaines d'entre elles sont ouvertes aux pros, d'autres pas du tout. Globalement, je pense qu'il y a une course sur deux qui est pro et l'autre pas pro. Comme on a pu voir cette année à Nice, par exemple, l'Ironman de Nice a toujours été pro, sauf depuis qu'ils sont passés avec le format au championnat du monde il y a 2 ans. Où on s'est retrouvé pour la première fois avec une course seulement ouverte au groupe d'âge pour le full et ouverte au pro pour le half.
Donc ce qui veut dire que si tu veux y aller, toi en tant que pro, tu peux toujours le faire, mais ça ne te permettra pas de te qualifier pour Hawaï en tant que pro. Même pas le droit. D'où le Arthur H, en fait. Tu te présentes comme Monsieur H et pas comme Monsieur Orso.
Voilà, c'est ça. J'ai comme ça, j'ai la possibilité de courir sur les triathlons de mon choix et pas ceux qu'on m'impose.
D'accord, ça va. Non, mais donc plus sérieusement, Nice n'est pas ouvert aux pros. Enfin, donc tu disais une course sur deux à peu près ouverte aux pros et les autres pas.
Ouais, c'est ça en fait. Pour ce qui est du circuit Ironman, parce qu'après, on a la possibilité de courir aussi sur le circuit de challenge maintenant. Et tout ça, en fait, c'est important pour nous maintenant, surtout depuis que le PTO, dont vous avez déjà dû parler.
Ouais, notamment avec Sam, ouais.
Donc en fait, ce PTO, donc de la Professional Triathlete Organization, c'est super jeune, finalement c'est à 2 ans, mais c'est quelque chose qui, pour le triathlon pro en tout cas, permet de vraiment échelonner le rang de triathlète pro et améliorer les revenus de tous ceux qui sont performants sur ce circuit. Donc en fait, ce qu'il faut viser maintenant, enfin, si on a la prétention de vouloir intégrer éventuellement le top 100 pour avoir des revenus supplémentaires, c'est de viser toutes les courses qui sont affiliées à ça. Donc, bah, de manière automatique, ce sera les courses pro du circuit Challenge et du circuit Ironman. Et après, quelques courses sont parrainées aussi par le PTO. Donc, par exemple, cette année, il y a eu les championnats de France à Cannes-sur-Mer, qui étaient parrainés par le PTO, du coup, qui ont permis de prendre des points aussi pour cette organisation. Donc, en fait, ce que j'ai essayé de faire moi depuis cette année maintenant, même si mon année elle a démarré il y a un petit mois, c'est d'aller faire des courses pour me permettre de rentrer dans ce ranking. Donc en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent les 3 meilleures courses par saison, et en fonction des points qu'on marque là-dessus, ben, en fait, on peut intégrer plus ou moins le top 100. C'est globalement ce qui se passe en ATP, au tennis ou au golf même, c'est à peu près le même système. C'est en fait, on marque des points en fonction du temps qu'on fait sur la course et du résultat. C'est un petit peu compliqué quand même à expliquer comme ça, mais plus le temps est bon, plus on marque de points, et plus on est haut classé au niveau des points, plus on a un bon classement du coup, international sur le PTO. Donc le PTO améliore beaucoup les revenus des pros, notamment lorsqu'ils soutiennent une épreuve. Du coup, comme je disais à Cannes, ils ont, il me semble, doublé les primes de ce que pouvait proposer l'organisation, donc c'est déjà beaucoup plus intéressant de la terminer. Et en fait, à la fin de l'année, il y a la possibilité de participer d'une part au Challenge Daytona, donc qui est un petit peu un championnat du monde PTO, sur format Alpha Ironman grossièrement, où du coup il y a un super prize money. Il y a des bourses additionnelles, en fait il y a 1 million à se partager pour les 100 meilleurs pros masculins, et 1 million aussi pour les 100 meilleurs féminines. Donc ça met quand même pas mal de revenus supplémentaires sur lesquels on pouvait pas compter il y a encore pas mal d'années.
Alors je le souligne et je le mets en gras et en italique, tu as bien dit 1 million à se partager entre les 100 meilleurs pros. C'est non, pas non. 1 million par pro pour les 100 premiers.
Ouais, c'est ça exactement, c'est vraiment à se partager, d'autant que plus on est bien classé, plus c'est intéressant d'avoir il me semble que le premier prend 100 000 dollars par exemple, et après ça descend 90-80 000 pour le jusqu'au top 10. Et puis après, il me semble que les 50 derniers touchent chacun 3000 dollars, donc c'est pas non plus énorme, hein. Mais c'est déjà ça de plus. Donc en fait, moi, pour financer tout ça, c'est surtout pour commencer, j'ai d'abord compté sur les primes de course en fait. Parce que, étant donné que c'est complètement privé et non institutionnalisé, c'est soit on a des sponsors privés en fait qui permettent de financer le tout. Donc certains clubs en France aident les athlètes sur longue distance. Soit il faut être dans un double rôle de triathlète et je sais pas manager sportif si on n'a pas l'accompagnement de quelqu'un et aller démarcher éventuellement des entreprises qui pourraient être intéressées par le projet ou des marques. Certaines marques en triathlon proposent forcément de rémunérer leurs sportifs. Mais bon, on compte ces sportifs, je pense, sur les doigts de la main et de manière générale. Pour débuter, c'est quand même quelque chose d'assez compliqué, je trouve, dans le circuit pro, à moins de casser la baraque dès la première course. Et après, forcément, c'est vraiment la course au résultat qui fait que on peut vraiment se permettre de se qualifier de triathlète pro et de pleinement vivre de ça, quoi.
Et du coup, toi, tu as vécu uniquement des prize money dans un premier temps ?
Ouais, c'est ça, ouais, complètement. Les premières années.
Et ça te permet de vivre. Enfin, tu vas me dire, ça dépend évidemment des pics de forme et tout ça, mais je veux dire, ça te permet de vivre, de financer ta pratique et tout ça.
Ouais, en fait, sur les premières saisons, ça a été ça. En fait, moi, déjà, en fait, j'avais déjà un petit peu ce truc pendant mes années avant de passer même sur longue distance, c'est que j'étais étudiant, mais je travaillais quand même la moitié de l'année pour financer mes études, tout ça. Je travaillais aux piscines de Montpellier, hein, j'étais maître-nageur entre les cours et les entraînements. Et du coup, l'autre moitié de l'année, étant donné que je voulais pas travailler l'été, parce que c'est la saison des tris, je me disais, Arthur, essaye de viser les courses où il y a des petites primes. Et comme ça, ça te finance ton été, quoi.
Et du coup, est-ce que t'as pas tendance à vouloir faire peut-être un petit peu trop de courses, tu vois, à vouloir vraiment pousser le truc, à dire en fait, ouais, j'ai besoin de cet argent, donc du coup, il faut que je fasse cette course, alors que t'es peut-être pas forcément en forme, t'es peut-être un peu fatigué, t'as pas suffisamment récupéré.
Ouais, non. En tout cas, dans un premier temps, c'est ce qui s'est pas mal passé. Je courais encore tous les cours distance, du coup, en France, pendant que je préparais mes longs.
Ok, donc c'était tous les week-ends, quoi.
Ouais, la première année ça a été grossièrement ça. En tout cas, l'été, je pense que j'ai pas loupé un cours distance en France où il y avait un prize money. Et après, petit à petit, maintenant, depuis cette année, hein, j'ai réussi à trouver des sponsors aussi privés de mon côté, en fait, des entreprises qui sont intéressées au projet et qui financent en partie. Donc en fait, il y a pas mal de façons de le faire. Moi, je suis auto-entrepreneur en fait. J'ai mon auto-entreprise et du coup, je déclare, comme chaque auto-entrepreneur fait tous les trimestres, les revenus que j'ai eus, et puis je paie ma part de taxes à l'État. Hein.
Donc c'est finalement comme ça que tu arrives à t'en sortir, d'abord à la chasse au prize money, puis après la chasse au sponsor, ce qui fait que moi je note quand même que dans ta vie jusqu'à présent, tu es quand même un bon manager de tes entraînements, manager de tes cours, manager de ton argent, et maintenant tu es un bon manager sportif parce que tu t'auto-manages pour aller chercher des sponsors, t'es pas qu'un triathlète, quoi, t'es un bon manager de manière générale.
Ouais, c'est vrai, enfin, j'avais jamais trop tourné la chose comme ça, mais j'ai pas vraiment eu le choix de le faire, en tout cas. Étant donné que c'est vraiment l'objectif depuis 2-3 ans, c'est d'être vraiment triathlète pro, c'est-à-dire de moi ce que je veux et ce que j'arrive à faire maintenant depuis cette année, je pense, depuis notamment les bons résultats, parce qu'avant X, il y a quand même eu deux podiums sur le circuit Ironman, donc j'ai fait le podium à Marrakech et au Sable. En fait, les résultats ont forcément apporté le reste. Hein. C'est difficile de se dire. D'aller voir des entreprises, de leur dire moi je suis triathlète pro, voilà ce que je peux vous apporter, est-ce qu'en contrepartie vous pouvez peut-être m'aider à financer un peu la saison, la saison ça a un coût aussi, tout ça. La crédibilité des résultats a fait que j'ai réussi à faire le reste, mais ouais, c'est sûr qu'il y a vraiment une double casquette de devoir écrire les mails, tout ça, tout préparer. Je peux faire un book à n'importe qui, je maîtrise Canva à la perfection maintenant.
Tu chercherais pas un stage par hasard?
Alors non, pour le coup, je cherche pas de stage, j'ai vraiment plus le temps pour ça. Mais non, c'est intéressant, je pense que même pour mon après-carrière, tout ce que j'ai développé comme compétence ici, ce sera vraiment pas perdu.
Oui, c'est assez entrepreneurial finalement, comme job, être triathlète pro sur longue distance en France.
Ouais, c'est ça. Bah, c'est une gestion de micro-entreprise, bon, vraiment micro parce que c'est moi. Sur tous les à côté, ouais, c'est ça.
Avant qu'on revienne justement sur l'aspect purement sportif de ces dernières années, tu parles un petit peu de ce que ça pourra t'apporter dans le futur, tout ce que tu as déjà appris. Justement, en parlant du futur, quels sont tes objectifs à court, moyen et long terme? Est-ce qu'il y a de l'Ironman full? Est-ce qu'il y a évidemment des podiums? J'imagine que si tu t'alignes sur une course, c'est pas pour enfiler des perles. Et puis, où est-ce que tu te vois dans 5 ou 10 ans, toujours dans le tri, toujours pro, ou est-ce que tu auras peut-être... pousser la porte de la reconversion?
Alors, moi j'ai pas mal ficelé tout ça, notamment poussé par mon prépa mental, là Benjamin Pugier, là de Mental Attitude, qui a à cœur d'avoir quand même un plan de saison déjà et de carrière étalonné, parce que je trouve que ça apporte pas mal de sérénité pour les courses et même au quotidien, de savoir vraiment où on va. La chance que j'ai, c'est d'être déjà qualifié pour les championnats du monde qui sont dans 13 mois quand même, l'année prochaine, donc j'ai vraiment une belle période de préparation pour ça. Donc je suis qualifié pour les Mont 70.3 depuis ma victoire à Aix il y a 2 semaines. Ça, c'est l'objectif à moyen terme, il est vraiment là. Après, je veux pas m'arrêter là, comme je t'ai dit, il me faut 3 courses cette année sur le circuit PTO pour espérer rentrer dans le top 100 avant la fin de l'année.
Avant la fin de l'année civile 2021.
Ouais, c'est ça, exactement. Même, il me semble que c'est avant Daytona, du coup, avant le 5 décembre, pour okay. Le PTO. Donc, il y aura le 70.3 du Portugal qui est maintenant dans 3 semaines, donc de nouveau sur Alf. Et donc un Ironman, très certainement en Afrique du Sud, le 21 novembre. Donc là, ce sera le premier Ironman. Donc bon, j'y vais sans prétention aucune. Hein. Je vais essayer de le préparer aussi bien que possible et puis on va voir ce que ça donnera sur la course. Je sais qu'il y a pas mal de manières de courir un Ironman, mais pour un premier, j'aimerais ne pas faire le débile comme j'ai pu faire sur mon premier full. Sur mon premier half, pardon. Et essayer de me dire, bon, on a la chance maintenant avec les 4 tours de puissance de pouvoir se gérer quand même très bien sur la partie vélo avant d'entamer le petit marathon qui risque de faire plaisir, on verra.
De casser quelques fibres.
Ouais, c'est ça, ouais.
Alors, tu nous as préparé une très belle transition parce que tu nous dis que justement, tu ne voudrais pas faire la même erreur que tu as fait sur ton premier 70.3. Quelques années après ce premier 70.3, tu gagnes justement le Half Ironman de Aix-en-Provence. Qu'est-ce que tu peux retirer comme leçon de ces 4 années passées à t'entraîner? Alors déjà, ces 4 années, un, à switcher vers le long, puis à t'entraîner sur du long et tout ça pour arriver à une belle victoire.
Ouais, c'est vrai que maintenant que tu le dis, ça fait 4 ans. il y a eu vraiment un gros gain de consistance sur la manière dont je m'entraîne aussi. Pas mal de progrès sur... pour parler vraiment d'entraînement, c'est le temps de soutien de mes efforts. Je pense qu'en 4 ans, ce que je tenais sur un M, donc sur 40 bornes, je suis capable de le tenir maintenant sur un half. Et donc tu vois, ça a pris 4 ans pour se mettre en place quand même.
En espérant que ça prenne pas 4 ans pour que tu le tiennes sur un full.
Ouais, après, si je tiens les boîtes que je tiens sur un half, sur un full, à mon avis, sur un full, je devrais vraiment être très, très, très costaud. Donc je pense pas que ce soit possible, très honnêtement.
Pour info, t'es à combien sur un half?
Sur un half, là, à Aix environ, j'étais vraiment pas gros, à environ 67-68 kilos. Je suis aux alentours des 330 watts. Sur une course comme ça. Et la différence, en fait, c'est que c'est pas du tout linéaire comme effort, en fait. C'est là-dessus aussi où je pense que mes années VTT me rendent service aujourd'hui. C'est que, par exemple, à Aix, toutes les bosses ont été montées complètement à fond. Donc, j'ai pas un col où je suis pas à 400 watts, en fait, à Aix. Et ça a vraiment été une course de dingue. Enfin, j'en garde un super souvenir sur cette partie vélo. Mais c'est aussi ce qui m'a permis, parce que j'ai vraiment très très mal de GRX. je crois que je prends 2,45 sur le meilleur nageur, Christophe Dekeyser, qui termine deuxième. Du coup, à vélo, j'avais plus le choix du tout, quoi. C'était soit ça roulait à fond, soit je faisais une place honorable, hein, mais il n'y avait aucune chance d'espérer monter sur le podium. Donc, une course comme Alex, ouais, c'est ça. La natation, du coup, vu qu'elle n'est pas dure, enfin, pour moi, vu comment je sors frais, en fait. Du coup, je peux monter sur le vélo et partir en fort directement. Donc, tu vois, par exemple, les 10 premiers kilomètres, je suis à 370 watts. Donc, c'est vraiment pas... Ça, c'est jamais linéaire, en fait. C'est pas comme on peut se dire, où on se dit, bon, je me mets à mes 320 watts et ça tient tout le long. Sur les courses pro, en fait, il y a des dynamiques, en fait, qui se mettent en place et il faut être capable de répondre. En espérant que ça n'enterre pas la course à pied derrière, quoi. Pas trop en tout cas.
Ouais, bah il y a toujours des dynamiques de course qui changent un petit peu, et puis bon, il y a aussi un parcours, quoi.
Oui, voilà, c'est ça.
tu peux pas vouloir être constant. Après, ça, c'est clair, ça dépend du.
Ça, tu roules pas sur un circuit.
C'est ça. Tu regardes Yann Frodeno qui bat son record là. Effectivement, il était assez constant parce que c'était un billard et que le mec il roulait sur une autoroute toute plate. mais bon, c'est vrai que dès que t'es un peu dénivelé.
Mais de plus en plus, les courses pro sur Ironman, en tout cas, elles sont sur des routes super plates. Par exemple, il y a eu celle ce week-end, il me semble que c'est un aller-retour sur une autoroute, pour ainsi dire, ou sur une grosse route nationale toute plate. Si on parle d'Hawaï, même si le parcours est vallonné, ça reste grossièrement un aller-retour sur un gros billard. Il y a plein de courses comme ça, en fait. Tout ce qui est au Bahreïn, Dubaï et compagnie, c'est pareil, c'est sur des autoroutes. Donc, il y a aussi des profils de coureurs qui sont beaucoup plus à l'aise là-dessus que d'autres. Moi, je reste assez léger, en fait, donc... forcément, plus le parcours va être ballonné sans être dans la haute montagne, mieux je vais pouvoir m'exprimer, quoi. Donc c'est sûr que Aix,
je te comprends.
Aix s'y prêtait super bien pour ça, donc bon, tant mieux pour moi. Hein.
Dixit, le vainqueur de la Race Across Belgium en format court, mais effectivement, c'était un petit peu vallonné pour t'avoir suivi en voiture, Olivier. Ça bougeait un peu quand même en Belgique.
Ouais, non, ça, Race Across Belgium, c'est plus que vallonné. c'est des murs les uns après les autres, c'est autre chose encore.
De toute façon, quand on regarde l'état des classiques qui se courent là-bas, en général, on sait à quoi on a affaire.
Ouais, non, dans les Ardennes, on a beau l'appeler le plat pays, c'est pas si plexe.
Ouais, je veux bien croire.
ou alors, c'est pas celui sur lequel t'as roulé. Mais donc, 4 ans après, tes enseignements, après autant d'entraînement, c'est déjà effectivement ton temps de soutien que t'arrives à augmenter et à optimiser. Il y a aussi des choses qui ont changé dans ta tête. Tu nous parlais de préparateur mental. Est-ce que ça a aidé aussi beaucoup à ta performance actuelle?
Ouais, ça complètement. Je travaille avec du coup en prépa mental depuis une bonne année et demie maintenant, et sur vraiment l'approche en fait de la course, j'ai complètement évolué. Enfin, je faisais vraiment trop la course au résultat en fait avant de me focaliser. Enfin, je voulais trop jouer la place plus que la performance en fait. Et au final, c'est vraiment se mettre des bâtons dans les roues, quoi. De réfléchir comme ça, de raisonner comme ça, ça m'apportait beaucoup plus de stress, et surtout ma réaction face aux certaines autres courses, elle était beaucoup moins bonne, quoi.
C'était lié aussi un petit peu à ton business model entre guillemets, quoi.
C'est ça,
forcément, tu regardais plus le podium que la performance dans la globalité, quoi.
Ouais, c'est ça, mais du coup on se retrouve à courir en fait à trop faire la course à la place, en fait. Si tout se passe pas bien comme on l'imagine ou comme on le souhaiterait, ou si on n'est pas dans un grand jour et du coup la forme ne répond pas comme on veut, on se retrouve complètement on se retrouve sans armes face à certains scénarios de course, et je me retrouvais à faire des courses où même ma stratégie à moi, elle était plus intelligente du tout, à me dire bon, vas-y, fais le vélo à fond, sauf que faire le vélo à fond avec tout le monde en emmenant du monde derrière soi, c'est pas non plus très intelligent. Et en fait, je me suis retrouvé à me mettre dans le rouge complet, à même pas pouvoir courir derrière, à avoir des points de côté. C'est ce qui m'est arrivé au Sable l'année dernière. Un gros point de côté en partant parce que j'ai fait le vélo comme un débile, mais sans jamais me relever, sans même être au point sur ma stratégie nutritionnelle. Alors que bon, c'est un truc que j'ai pas mal développé. Bon, par exemple, entre ma première course et aujourd'hui, j'ai beaucoup évolué aussi là-dessus, et c'est ce qui fait que je suis capable d'être performant 4 heures. Alors qu'avant, il me fallait une heure et demie max, quoi, 2 heures, ça tenait, mais bon, forcément, je mettais que de l'eau dans mes bidons, quoi.
Alors, il n'y a pas forcément de rétroviseur sur les vélos, et en tout cas pas sur les vélos de compète, et encore moins sur les vélos de pro. On cherche un petit peu à optimiser l'aérodynamique. Malgré tout, si tu devais regarder dans le rétroviseur, pas forcément le meilleur conseil pour devenir triathlète, on en a déjà parlé cette semaine, tu nous as dit que c'était peut-être déjà travailler beaucoup la technique en natation, mais quel serait ton meilleur conseil pour progresser et performer dans le triathlon ?
Le conseil ultime pour moi, c'est d'être consistant, tout simplement. C'est vraiment là-dessus que moi j'ai gagné au fur et à mesure. D'année en année, j'ai vraiment gagné là-dessus. Parce que j'ai tendance à vouloir en faire beaucoup, trop souvent en fait, et je me suis rendu compte que on s'expose beaucoup plus à des blessures, on s'expose beaucoup plus à des gros coups de fatigue, des gros moments bien. Et là, je fais plus la course. En fait, j'essaie pas d'être le meilleur de moi-même à chaque séance. En fait, j'essaye de donner le meilleur que la séance propose. Et ça me permet de gagner en fraîcheur en fait sur la globalité, plutôt que d'avoir une séance où c'est sûr, hein, j'ai fait des séances de dingue à l'entraînement et je me retrouvais aussi en faisant des séances de dingue, on se persuade que le niveau il est forcément dingue et que en course on va tout casser.
Sauf qu'au final on se crame un peu quoi.
Sauf que ouais, exactement, c'est ça, on se crame un peu et on s'en rend pas compte sur le moment, on a l'impression qu'on s'affûte bien, qu'on a bien récupéré, mais je pense que ça apporte aussi une grosse charge mentale en fait, et qui fait qu'en compète on n'est pas assez frais, parce que pour se remettre de tout ça il faut peut-être des semaines voire des mois, alors que au final moi souvent 10 jours avant mes compètes, enfin en tout cas avec la manière dont je m'entraînais avant, je faisais très certainement la compète avant la compète en fait. Et donc ça peut pas marcher comme ça quoi.
Bah écoute, merci beaucoup pour toutes ces infos. Je pense que là, on a un bon panel déjà sur toi, sur ton histoire, et puis sur comment devenir, progresser et performer en tant que triathlète. Est-ce qu'il y avait un autre point que tu voulais aborder, ou on en reste là pour cette série d'interviews avec toi, Arthur ?
Non, moi je pense qu'on a fait un peu le tour. Ouais. Comme je disais, pour vraiment résumer la chose, c'est ce qui m'a le plus fait progresser, c'est de travailler sur cette fameuse consistance, plutôt que de me dire cette semaine j'arrive, j'ai un gros accent sur la natte, je vais nager 6 fois, 7 fois, 8 fois, j'en sais rien. Et au final, si on trouvait 3 semaines après complètement cramé et bâcher une séance sur deux, parce que on n'a pas la capacité d'amortir ce qu'on a fait avant en fait. Enfin, dans magasiner, d'encaisser ce qu'on a pu faire avant. Donc en fait, disons que j'avais peut-être une vision vraiment restreinte de la chose avant, à me dire l'hiver c'est l'hiver, on s'entraîne, et maintenant j'essaie d'avoir une vision super globale de tout ça, et comme tu me demandais tout à l'heure, de me projeter vraiment plus sur le long terme. Là je sais que je vais passer sur full, donc ça sert à rien de s'emballer sur certaines allures, je sais que les saisons sont longues maintenant, on peut courir toute l'année, que même si je suis dans le rouge à un moment, ça veut pas dire que la saison est morte. Là, par exemple, j'ai passé l'hiver blessé, J'ai eu 3-4 mois pour ainsi dire allongé sur mon lit. Et au final, 3 mois après ça, je sors ma meilleure performance de tous les temps avec une victoire sur le circuit pro.
C'est quelque chose qu'on voit quand même aussi assez souvent finalement chez les triathlètes. C'est en retour de blessure, parfois on est d'autant plus performant parce qu'en fait, tout simplement, on a pris le temps de récupérer vraiment et de faire une vraie coupure. Et parce que le reste de l'année, on est peut-être un peu toujours surentraîné, donc un petit peu à bout quoi. C'est un truc qu'on voit quand même assez souvent, je pense.
Ouais, c'est vrai, chez les sportifs en général, et pas mal chez les triathlètes, c'est sûr. Et moi, je pense aussi. Il y a une grosse remise en question en fait de la manière dont je fonctionnais avant de me baisser, et à mon avis je me suis aussi baissé à cause de tout ça, comme tu dis, je devais être un petit peu cramé un peu tout le temps en fait, et du coup à tirer dessus, au bout d'un moment moi le corps il a dit stop, et là c'est dingue d'ailleurs que je puisse me fissurer un disque vertébral avec mon quotidien, mais bon c'est ce qui s'est passé, donc moi en tout cas ça m'a vraiment fait mûrir en fait sur mon approche et sur ma pratique quotidienne en fait de la chose, et sur vraiment avoir une vision globale, quoi, gérer chaque séance pour pas être complètement cramé, parce que le lendemain il y a de nouvelles séances et le jour d'après il y en aura une autre, et en fait ça peut pas tenir si tu te dis je fais la course tous les jours.
Non, et puis ça te permet de relativiser aussi, je pense, et de te dire que Ton corps, bah, t'en as qu'un, faut que t'en prennes soin. Et et surtout, enfin, ça te permet vraiment de mieux comprendre ton corps et surtout d'être plus conscient aussi, tu vois. Mon corps fonctionne vachement bien, je suis en bonne santé, tu vois. Et ça, c'est juste incroyable, quoi. Enfin voilà, là, à l'heure où on parle là, ça fait un mois que j'ai ma clavicule fracturée en plusieurs morceaux et déplacée. Enfin voilà, c'était un truc pas très joli. Et aujourd'hui, j'ai été faire ma première course à pied, donc. Ça plus t'entendre entendre ton discours avec ta victoire à Aix après 3-4 mois de convalescence, ça me donne plein d'espoir, donc voilà.
tu vas avoir assimilé tous les entraînements des années passées, vitesse grand V en fait.
J'espère.
Bon bah, je pense pas qu'on va se revoir pour aller courir ensemble, Olivier. Finalement, je vais te laisser partir devant et puis je te rejoindrai pour le deuxième tour.
Ça va, hein, pour l'instant, j'ai été courir 15 minutes, hein, c'est tout. Hein, je reprends doucement.
Bon, Arthur, pour terminer, où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut en savoir plus sur toi, si on veut suivre ton actualité et puis si on veut t'envoyer un petit message?
Eh bien, sur les plateformes habituelles, hein, sur les réseaux sociaux. Moi, je suis pas mal, j'essaie d'être pas mal actif parce que ça fait aussi partie des choses que j'ai travaillé, parce que c'est pas ce que je préfère faire, à vrai dire, mais en tant que créateur pro, ce que recherchent les sponsors, donc les gens susceptibles de m'aider, et les marques aussi qui m'accompagnent, ça va être sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook forcément, et même depuis quelques temps sur Strava, si vous voulez voir un petit peu ce que je fais vraiment au quotidien, tout est dessus, je partage absolument tout, donc voilà.
On mettra de toute façon tous les liens dans les notes de cet épisode. Arthur, merci encore d'avoir joué le jeu, de nous avoir libéré un peu de temps dans ton agenda bien chargé de triathlète professionnel. On te souhaite une bonne continuation et puis bah, tu passeras le bonjour à ton colocataire qu'on espère avoir bientôt aussi sur le podcast.
Ça marche, j'y manquerai pas, merci à vous.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'oubliez pas de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter avec les invités, commenter et poser vos questions. Et Olivier et moi, nous vous répondrons dans un prochain épisode. À la semaine prochaine. Salut les sportifs.